افريقيا يا سودان الشعب توحد شعبك اقسم علشان اكسل دم مستشحد شعبك اقسم علشان اكسل دم مستشحد مرقنا علشانك ديسمبر تشحد مرقنا علشانك ديسمبر تشحد مرقنا من الجنوب نحن مرقنا في الخرطوم اتوحدنا ضد الناس سرقوا بلدنا في الخرطوم اتوحدنا ضد الناس الباع واردنا
كل افريقيا يا سودان الشعب اتوحد شعبك اقسم علشان اكثر دم مستشحد
يا سودان الوحدة جمعنا شعبك أقوى يا سودان الوحدة جمعنا بيان بالعمل هناك في بر سلقنا طريقنا بيان بالعمل هناك في بر سلقنا طريقنا في عباسية والشنباد رفعنا شعارنا في عباسية والشنباد رفعنا شعارنا في ميدان جاكسون بالبومبان اتبخرنا في ميدان جاكسون بالبومبان اتبخرنا قيام الليل في أم درمان وتنوبة ويشعلنا ثقابة قيام الليل في أم درمان وتنوبة ويشعلنا ثقابة
كل افريقيا يا سودان الشعب اتوحد شعبك أبصم علشان أكسل دم مستشحد مرقنا علشانك ديسمبر تشحد
عاد الشعب مهنية بجيش العز الوطنية عاد الشعب مهنية بجيش العز الوطنية جيل مولود في الحكم وراث شعار سلمية جيل مولود في الحكم وراث شعار سلمية يصافي أخوه بالبسمة والبسمة تقول سلمية صافي أخوه بالبسمة والبسمة تقول سلمية أشرق شمسك يا بلادي من بر سودان كلمني أشرق شمسك يا بلادي من بر سودان كلمني شدت نورك في كسلة ما شعبي قضارك راسمني شدت نورك في كسلة ما شعبي قضارك راسمني ضوي الأكبر وبيت دامازين وكادوغلي ضوي الأكبر وبيت دامازين وكادوغلي أرسل نور حرية لدار فورك وغني أرسل نور حرية لدار فورك وغني كل جزيرة وغراها بشارة روح الوطنية
Voilà une chanson donc pour vous annoncer un thème que nous allons traiter maintenant avec nos invités. Il s'agit du Soudan, donc un pays qu'on va peut-être mieux découvrir aujourd'hui au travers de cette émission et aussi la condition des gens qui y vivent ou qui ont choisi d'émigrer. Et c'est le cas aujourd'hui de trois personnes que je voudrais remercier d'être venues. Il s'agit de Nasser. Bonjour Nasser.
Bonjour, monsieur René.
De Karim. Karim, bonjour.
Oui, bonjour.
Et puis Kassim. Bonjour, Kassim.
Bonjour, René.
Donc, on se connaît un peu parce que vous êtes déjà venu à Radio Campus. Et il y a quelques années, vous avez pu venir expliquer un petit peu dans quelles conditions vous étiez venu en, notamment en France, mais aussi ici, dans cette université, où vous avez appris le français, par exemple. On va faire le test du progrès aujourd'hui. Donc voilà, on va d'abord demander, alors je ne sais pas, il n'y a pas de chef chez vous, je présume, on va demander de gauche à droite. Allez, Nasser, puisque tu es à ma gauche, on va commencer par toi. Oui. Donc peut-être tu peux nous rappeler le début de votre aventure en France. Comment vous êtes arrivé ici, dans quelles conditions et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, si tu veux, on peut revenir à avant, ce qui s'est passé avant. Mais pour l'instant, on va parler de ton arrivée en France. Est-ce que tu étais avec les amis qui sont ici ou pas? Ou comment vous êtes rencontrés, etc.
Ok. Tout d'abord, merci beaucoup, messieurs. René, pour l'invitation à la Radio Campus. Et c'est notre plaisir d'être là toujours avec vous. En effet, on est arrivé ici pas tous ensemble. Chacun a son parcours ou son arrivée ici. Et moi, je suis arrivé en mars 2016 à la Jungle de Calais, à Paris, d'abord, et après à la Jungle de Calais. Et je suis resté jusqu'à le démantèlement de la Jungle à la fin de 2016. Ouais. Alors, on était tous... on s'est rencontrés à l'Université de Lille quand on est tous venus ici en octobre 2016, si je ne me trompe pas.
Alors Karim, peut-être quand tu es arrivé ici, alors on a expliqué la jungle et peut-être qu'on pourra revenir sur les conditions de la jungle et peut-être faire un petit point d'actu aussi sur en ce moment ce qui se passe proche de la mer du Nord, la Manche, etc. Mais est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, quand tu es arrivé ici, ça t'a fait penser à quoi, un campus comme ça, dans une université, mais pas vraiment dans le centre-ville, un peu à l'écart, et un endroit un peu, entre parenthèses, d'une vie un peu sociale, habituelle, pour toi?
Ah oui, d'abord, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Et donc, moi, quand je suis arrivé ici, j'avais envie d'apprendre le français d'abord, ici, à Lille.
Oui, oui.
Oui. Et après, je vais faire mes études. Oui, comme au Soudan, moi, j'ai eu mon licence en secrétariat administratif. Après, je voudrais faire un master dans le même domaine ou je change dans autre filière aussi.
D'accord. Alors, peut-être qu'on peut poser la même question à Kassim. Donc, cette université-là, vous aviez une idée de ce que c'était une université ici, dans la région lilloise?
Bonjour René, merci encore de nous avoir invités.
C'est un plaisir.
Pour moi, je n'avais pas idée de cette université. J'avais entendu en 2016, quand certains professeurs de l'Université de Lille sont venus à la jungle pour faire appel aux gens qui étaient là-bas dans le jungle de Calais. Et de pouvoir, qu'il y a une possibilité, en fait, il y avait une proposition, du coup, avec une possibilité de venir s'installer dans le campus et apprendre le français et puis continuer ses études à l'université par la suite.
Toi, quand tu étais au Soudan, est-ce que tu étais dans une université là-bas?
Oui.
Et quelle différence tu as vue en arrivant ici? Enfin, est-ce que c'est pareil, en fait, ou pas?
C'est à peu près la même chose, sauf qu'au début, quand tu arrives, tu as des difficultés de langue et ce n'est pas pareil. Et du coup, tu dois encore faire plus d'efforts et maîtriser la langue d'abord et puis continuer les études.
Donc, quand on est au Soudan, les études, on les fait dans quelle langue?
Au Soudan, c'est principalement en arabe. Après, ça dépend de spécialité, de domaine. Et il y a certaines matières en anglais. Et il y a beaucoup de langues aussi. Il y a, surtout à l'université, il y a le français. Il y a l'allemand, le chinois. Oui, beaucoup de langues, en particulier l'anglais.
D'accord. Donc ça, c'est quelle université au Soudan?
C'était l'université de Nilène.
D'accord, c'est une grosse université.
Oui.
Il y a beaucoup d'étudiants.
Oui.
À peu près comme à Lille, ici.
À peu près, oui.
À peu près, oui. Donc, parmi ces langues, toi, tu connaissais l'arabe, j'imagine.
Oui, je parle parfaitement l'arabe.
Et tu connaissais quoi encore comme langue?
Je parlais très bien l'anglais.
L'anglais, oui.
Mais j'ai jamais tenté d'apprendre une autre langue.
Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qu'on peut expliquer. Hein. C'est que beaucoup de gens qui se réfugient, hein, qui sont immigrés là pour des raisons qu'on peut expliquer après, hein, souvent, ils veulent aller en Angleterre parce qu'en Angleterre, on parle l'anglais et qu'ils connaissent l'anglais. C'est souvent un peu ça. Et en plus, parfois, ils ont aussi des parents en Angleterre. Ça arrive.
Oui, ça arrive. Et je crois que oui, c'est pour beaucoup de Soudanais. La raison principale... de leur en fait décision d'aller plutôt en Angleterre, c'est la langue en fait, c'est l'aspect de la langue, et ils n'ont pas envie de commencer à zéro, et du coup comme ils parlent relativement ou un peu d'anglais, du coup ils préfèrent aller en Angleterre qu'ou rester en France ou ailleurs dans l'Europe occidentale.
Alors, je ne sais pas si vous savez, mais la France est payée par l'Angleterre pour empêcher les immigrés d'aller en Angleterre. Donc, il y a un financement de la Grande-Bretagne pour qu'on veille à ce que les immigrés restent en France ou repartent dans leur pays. Je ne sais pas, hein, mais c'est un deal qui est fait avec l'Angleterre. Donc, c'est un peu compliqué, cette situation-là. Ça crée des conflits, ça crée des incompréhensions aussi. Et puis là, on voit bien qu'il y a eu énormément de morts la semaine dernière. Hein. On a 30 morts, on va dire, de personnes qui ont tenté d'aller en Angleterre. Donc, parfois, certains y parviennent. D'autres rebroussent chemin. D'autres sont récupérés par les gardes-côtes français qui, eux, font le travail, justement, par rapport à la convention avec l'Angleterre, d'essayer de récupérer ceux qui voudraient aller là-bas. Et puis, il y a des gens qui meurent régulièrement et dont on n'entend pas toujours parler. Mais là, c'était évidemment impossible de masquer autant de personnes décédées d'un seul coup dans un naufrage, on peut dire ça comme ça, et on ne sait pas encore les circonstances exactes. Il y a une enquête là-dessus, savoir est-ce qu'ils auraient appelé plutôt des Français, plutôt des Anglais, est-ce qu'on les aurait abandonnés à leur sort, ou voilà, il y a une interrogation là-dessus. Bon, je pense qu'il y aura une enquête qui sera faite pour voir les responsabilités des uns et des autres, mais on sent bien que cette situation, elle est de plus en plus massive. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent d'aller en Angleterre et que vu encore hier ou avant-hier, hein, des camions entiers avec 40 personnes dedans qui essayaient de traverser telle zone ou de passer de là à là, etc. Et puis il y a ces campements qui ont été à un moment donné presque en dur, hein, c'est-à-dire voilà, et puis qui ont été rasés, et on voit tous ces gens qui déambulent dans la région, on va dire vers la côte, hein, pas, voilà. Quand je parle de Calais, je pourrais parler de Dunkerque, enfin toute cette zone-là, et qui ne savent pas trop où aller, qui attendent de passer, voilà. Pour eux, mourir pour mourir, autant aller en Angleterre et risquer leur vie et aussi financer des passeurs. Donc ça, c'est une situation très complexe. C'est difficile de juger. C'est juste de voir qu'il y a une situation qui est évidemment anormale et dont vous avez souffert vous-même en étant à la jungle de Calais. Peut-être que, je ne sais pas si c'est douloureux pour vous d'évoquer ce moment. Est-ce que pour vous, c'est dur de parler de la jungle de Calais?
Si je peux juste
oui, Nasser.
Faire un commentaire... En effet, c'est très douloureux de savoir encore. Il y a des gens qui essayent d'y aller en Angleterre. Les raisons sont différentes. En effet, en Angleterre, c'est quoi la différence entre de choisir rester en France ou bien aller en Angleterre? La raison principale, c'est ce que ici, en France, le processus de la demande d'asile, c'est un peu compliqué pour vous. Par contre, en Angleterre, surtout pour les Soudanais, d'avoir les papiers, c'est sûr ou c'est trop rapide, c'est vite. Encore, il y a d'autres choses qui motivent les gens de partir aussi, ce que le travail là-bas. Et la troisième chose, c'est la langue. Parce que notamment, les Soudanais, ils parlent anglais. Alors, ce sera plus facile pour eux de s'intégrer dans la société anglaise. Mais le problème de prendre le risque de mourir pour partir, et moi, ça m'a fait trop mal.
Alors, quand vous avez un statut, j'imagine là, de réfugié politique, c'est ça?
Oui, exactement.
Oui. Quand on a ce statut-là, est-ce qu'on a un devoir de discrétion, de réserve? Est-ce qu'on a le droit de parler de ces choses dont je parle, mais je ne veux pas abuser non plus de votre bienveillance? Est-ce que vous avez
Merci.
le droit de vous exprimer sur ces sujets-là?
Je pense que oui, on peut avoir le droit de s'exprimer, surtout cette situation, c'est une situation vraiment horrible, ce qui arrive dans le monde. Je pense que c'est un devoir de tous, en fait. C'est un devoir de tout le monde de s'interroger de s'interroger sur ce qui arrive et les gens qui meurent, en fait, dans le monde depuis très longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Du coup, il faudra que tout le monde réfléchisse aux solutions dans l'urgence possible.
Voilà. Donc, quand les personnes hein, qui sont réfugiées arrivent sur un territoire, bon, elles essayent de trouver des solutions par rapport à leur projet, on va dire ça comme ça. Après, localement, elles ont la possibilité ou non de faire un certain nombre de choses. Mais si elles viennent, elles ont des raisons. Donc, pourquoi vous êtes parti du Soudan, qui est un pays qui vous est cher? Enfin, je pense que c'est un pays que vous aimez, puisque là, vous me ramenez de la musique soudanaise. Peut-être qu'on peut présenter l'artiste que vous avez proposé. Hein.
Oui, l'artiste s'appelle Saber Dafori. Il a écrit en 2019. Il l'avait chanté lors de la révolution soudanaise, surtout le début de la révolution soudanaise. C'est une chanson qui incite les gens à se surmonter, en fait, à s'exprimer contre la dictature al-Bashir. Je pense que grâce à beaucoup grâce aux efforts de beaucoup d'artistes, on a réussi à mobiliser les gens et surtout finalement de faire tomber le régime dictatorial d'Omar al-Bashir, qui a commis beaucoup de génocides, surtout à l'est du pays, où il a ordonné les milices à tuer beaucoup des innocents.
Alors c'est vrai que nous, quand on entend des chansons, on va dire africaines en général, hein, je ne vais pas détailler les pays de l'Afrique, c'est très grand l'Afrique,
Exactement.
ou le Moyen-Orient est évidemment très grand aussi. Donc quand on entend ces chansons-là, elles ont l'air sympathiques, agréables, etc. Mais derrière, on ne comprend pas les paroles, nous. Hein. Pour vous, ça a un sens qui nous échappe. Donc parfois, on met des chansons. Je suis pas sûr de bien faire de mettre certaines chansons parce que je connais pas le contenu exact. Et je les trouve très chouettes, sympas, mais
C'est
derrière, on
vrai.
ne sait pas hein, si c'est Radio Mille Collines, c'est différent, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
Exactement.
qu'est-ce qu'on peut justement expliquer de l'histoire de votre pays, de l'évolution du pays, de voir aussi, vous, quand vous êtes parti, est-ce que la situation est encore la même ou est-ce que ça a bougé et peut-être un jour il y aura une lueur d'espoir que vous puissiez y revenir?
Pour moi, je pense que la situation n'a pas du tout changé. On a réussi à faire tomber le régime dictatorial qui était au pouvoir depuis 30 ans. Et là, actuellement, il y a encore les militaires qui ont le pouvoir. Parce que juste après le chute de dictature Omar al-Bashir, on a mis un gouvernement composé des militaires et des civils. Et du coup, là, récemment, les militaires, ils ont renversé les civils. Du coup, ils ont repris le pouvoir. Et là, ils ont arrêté beaucoup de hommes politiques. Et là, actuellement, la situation est vraiment très difficile là-bas. Pour moi, pour l'instant, tant qu'il y a des militaires aux têtes de pays, je ne pense pas qu'il y aura des changements où ils vont peut-être permettre les changements démocratiques. Pour moi,
Oui,
les
c'est.
militaires sont, ce sont en fait, des gens qui étaient pilotés par l'extérieur, surtout l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc. Et du coup, ils manipulent le pouvoir et ils ne laissent pas les civils le gouverner le pays ainsi avancer. Parce que le pays vit des crises sociales, économiques, etc. Et du coup, ça se complique encore et encore la situation.
Alors, si on parle du Soudan, bon, c'est votre pays, vous le connaissez bien. Est-ce qu'autour de vous, vous pourriez présenter les autres pays qui sont juste à la frontière du Soudan? Et est-ce que ces pays-là connaissent des problèmes aussi semblables, similaires, on va dire?
Juste avant de
Oui, non.
répondre à cette question-là,
Oui, non, ça.
je voudrais bien revenir
Oui, bien sûr.
et confirmer ce que Gassim a dit.
Bien sûr.
L'histoire de mon pays, c'est une histoire compliquée. Depuis l'indépendance en 1958-59, elle a commencé par un gouvernement démocratique. C'est pour quelques années. Après, les militaires sont sautés au pouvoir. Et encore en 1964, ça fait une révolution énorme. Et pour enlever les militaires ou la démocratie, elle était revenue encore, mais pas pour longtemps, jusqu'en 1969, où les militaires sont sautés encore. Alors, c'est une histoire qui répète toujours. Et les militaires, jamais, jamais, ils vont laisser le pays et le civil pour être en pouvoir. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est grave
Alors
dommage.
justement, je
Oui.
voudrais voir dans l'espace régional, hein, autour de votre pays, qu'est-ce qu'il y a comme autre pays? Est-ce que tous ces pays-là ont des militaires aussi au pouvoir ou des gens qui exploitent leur peuple ou qui détournent l'argent qui serait
Oui,
public, hein?
mais il y a des pays en Afrique qui sont, par exemple, Rwanda. Rwanda, aujourd'hui, il y avait quelques années, il y a un président qui a développé le pays après le massacre de Tutsi et Hutu. Il est un homme qui aime son pays. Il a développé le pays, il a pris des décisions parce qu'il aime son pays. Okay? À d'autres pays en Afrique aussi. Il y a les démocraties, mais c'est peu, c'est très peu,
Très peu.
c'est
Donc
l'histoire.
là, on entend beaucoup en ce moment, enfin, c'est récent, hein, je parle des personnes africaines hein, qui ont envie d'exister sur la scène internationale et puis de s'entendre entre pays africains. Est-ce que pour vous, ça vous semble possible?
Voilà, oui, à mon avis, c'est bien sûr. Tout c'est possible, mais c'est du point de situation. À mon avis, au Soudan, c'est un cas un peu spécial. Toujours, il y a des ingérences de l'autre pays dans les affaires de Soudan.
De quel pays?
Par exemple, de pays
Qui
de.
fait de l'ingérence? Quel pays fait de
Mais
l'ingérence?
moi, je ne voulais pas inciter, mais
Bon, d'accord.
oui, il y a des pays, soit pays en Afrique ou ailleurs, qui ont par exemple, de relations, par exemple, avec de militaires qui ont le pouvoir. Pour qui profiter de cette situation-là.
Est-ce qu'ils ont des intérêts là-bas? Est-ce qu'ils veulent avoir les ressources de ce pays, etc.? Est-ce que c'est pour ça qu'ils
Oui,
aident les militaires?
oui, bien sûr, bien sûr. Il y a par exemple, la plupart de, par exemple, d'entreprises qui ont de l'argent, c'est le militaire qui tient ou qui gère l'entreprise.
D'accord.
Ils n'ont pas voulu, par exemple, transmettre cette entreprise-là au ministère de finances publiques.
Donc on peut presque dire, on ne va pas donner les noms des entreprises, hein, mais qu'il y a des entreprises qui sont aidées par ces militaires, voire même peut-être des entreprises qui payent des militaires pour asseoir un pouvoir qui leur soit favorable, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Donc effectivement, dans ces circonstances-là, les torts sont partagés et les responsabilités sont partagées. Et si le système continue comme ça, depuis de nombreuses années, on ne voit pas trop de solutions. Est-ce que dans l'Afrique, on ressent par contre peut-être des lueurs d'espoir, de choses qui évoluent et d'influences nouvelles qui pourraient apporter des solutions à long terme?
À long terme, oui, il y a toujours lueurs d'espoir. Par exemple, concernant le Soudan, il y a toujours des gens dans la rue et qui contestent et qui disent non au gouvernement militaire. Et du coup, on voit aussi dans beaucoup de pays, les gens qui sont opposés, soit opposition armée ou civile, surtout l'opposition civile, ils sont réprimés, toujours réprimés, mais il y a toujours lueur d'espoir, surtout avec l'éducation. Je pense qu'il y a moyen de s'en sortir à l'avenir. Moi, je suis conscient de ça.
Bon. Bonne nouvelle à long terme, donc. Hein. Est-ce que vous sentez depuis un an ou deux un nouvel intérêt de puissance dans le monde, hein, de grande puissance, un regain d'intérêt pour les pays d'Afrique? Est-ce que vous sentez que, tiens, tel pays-là, on ne le voyait plus trop, mais il a envie de revenir s'occuper un petit peu de nos affaires? Est-ce que ça, vous sentez une tendance vers plus d'intérêt vers les pays d'Afrique pour les grandes puissances?
Ah. En effet, il y a tellement de pays qui jouent dans la politique au Soudan, soit des pays dans le Golfe, soit des pays, la Chine par exemple aussi, il a des intérêts économiques, ils ont exploité le pétrole au Soudan. Aussi, les États-Unis sont le pays qui, moi, à mon avis personnel, sont le c'est eux qui divisaient le Soudan de deux pays, nord et sud. Et ça, c'est parce qu'en 2009-2010, il y avait une évolution économique. Le Soudan est devenu un pays développé déjà, dans 12 ans juste seulement, parce que le pétrole a été énorme, qui viennent du sud du Soudan, mais dans le sud, il n'y avait pas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de port pour exporter le pétrole. Alors, toutes les infrastructures, ça existe dans le nord, les PIB, le port et tout ça. Alors, ils ont coupé cette relation-là entre deux, le nord et le sud. Et maintenant, nous sommes divisés pour ne pas être puissants.
D'accord.
Il y a des intérêts comme ça.
Alors, justement, est-ce que le fait qu'il y ait une sorte de concurrence entre grandes puissances pour s'intéresser à vous, je mets ça entre guillemets, hein, ça pourrait être une façon possible de négocier de meilleures conditions?
Exactement. Mais moi, à mon avis, pour être un pays développé, oui, on a besoin d'être avec une bonne relation économique, commerciale, politique avec le monde entier. Mais il faut... Le Soudan, c'est un pays riche, messieurs. C'est un pays très riche en or, en pétrole, la terre, l'agronomie. C'est le pays le plus puissant dans tout ça en Afrique.
On voit bien que la richesse des pays n'amène pas toujours leur bonheur. Hein. Je pense au Congo, par exemple.
Oui.
C'est toujours difficile de maintenir des états de paix dans des pays qui sont immensément riches de ressources, parce que forcément, c'est une force d'attraction et d'ingérence dans les affaires.
Ça, c'est le problème. Parce que c'est les politiciens du pays qui peuvent gérer les choses, ou même, comme il a fait le président du Rwanda, comme il a fait la Malaisie, Mahathir Mohamed, la Malaisie, avant Mahathir Mohamed, c'était rien. Alors, nous, on a besoin de quelqu'un, un Soudanais, comme le président rwandais ou comme Mohamed Mahathir Mohamed.
D'accord. Alors, justement, il y a beaucoup étudiants en France qui viennent d'Afrique, qui sont africains et qui viennent étudier en Afrique. On pourrait imaginer qu'en retournant en Afrique, pour ceux qui retournent, ils puissent donner des idées aux Africains, s'emparer de la politique au sens noble des choses et faire que leur pays se redéveloppe sur de meilleures bases. Est-ce que vous, en venant ici, vous ressentez dans... J'aime pas trop le mot communauté, hein, mais dans vos groupes que vous connaissez de Soudanais, des gens qui pourraient être le potentiel qui, demain, pourrait amener à une stabilisation, une meilleure vie, et peut-être aussi, je pense que vous l'espérez, à votre retour dans votre pays d'origine.
Oui, à mon avis, c'est bien sûr. On a de l'espoir. Un jour, si on a retourné là-bas, on fait beaucoup pour notre pays, si on trouve la chance. Mais est-ce que, à ce moment-là, le militaire, ils ont quitté le pouvoir ou ils sont toujours en pouvoir? Si le militaire, ils ont toujours en pouvoir, normalement, toujours, les personnes qui travaillent, toujours, ils suivent leur ordre. Mm. Mais tu ne peux pas travailler ou t'appliques votre idée.
Mmh. Voilà, donc on sent bien que c'est très compliqué, mais qu'en même temps, on ressent quand même qu'il y a des forces qui bougent en Afrique. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner comme tendance globale, mais on sent que l'avenir du monde, une partie importante, à mon sens, hein, va se concentrer peut-être sur l'Afrique, qui est un continent où beaucoup d'habitants sont jeunes. Il y a une jeunesse importante, même impressionnante par rapport à des pays qui vieillissent. Et puis, il y a aussi peut-être un rééquilibrage qui pourrait se faire autour d'ententes intra-Afrique, enfin de l'Afrique à l'intérieur, entre des gens qui vont s'entendre pour être plus indépendants et que la richesse qu'ils ont soit mieux redistribuée en interne, ce qui serait peut-être pas mal aussi. Que les ressources soient réaffectées à leur usage d'origine et pas pillées, comme c'est le cas depuis, on va dire, depuis des siècles, non ?
Ça, c'est depuis l'indépendance, depuis 1958, ouais. On est toujours au même. Les Anglais, quand ils ont quitté le pays, ils ont fait pas mal de choses, de projets. Al Jazeera Project, c'est un projet, le plus grand projet agronome en Afrique. Après, nous-mêmes, les Soudanais, j'aime pas les généraliser les choses. Mm-hmm. Mais le problème, c'est qu'il y a certains qui pensent, dans le Soudanais, qui ne travaillent pas de cœur pour le Soudan. D'accord. Chacun travaille pour son intérêt personnel. Mm-hmm. Et ça, c'est une chose, il faut du temps, il faut les gens qu'ils soient pour le pays. Mmh. La corruption, c'est énorme.
Alors, quand on dit c'est énorme, c'est plus qu'énorme. Hein. Quand on voit des chefs d'État ou des fils de chefs d'État qui ont des résidences complètes dans des rues de Paris avec des grands hôtels, etc., et qui vivent comme ça, et que voilà quoi. Yeah. Et que pendant ce temps-là, la misère est dans leur pays et que à la limite, ça les préoccupe pas.
Et personne ne regarde les gens qui sont pauvres. Et ça, c'est pour ça, moi, j'écris. Ce poème-là, ça résume un petit peu la situation. Nous-mêmes, on a tué notre propre pays. Les Soudanais, les soldats, on peut dire toujours, il y a des Soudanais qui sont, ils aiment la liberté, la démocratie, ils sont éduqués, pas mal de Soudanais, pour gérer le pays pour le meilleur, d'accord ? Mais il faut jamais, c'est la faute depuis la révolution contre Omar al-Bashir. Depuis le premier jour, moi j'ai dit à tous mes amis, ça ne sert à rien, on est content, oui, il est parti, mais il n'est pas parti parce que les militaires ils vont revenir, parce qu'on a mis les militaires dans le gouvernement, dans le nouveau gouvernement comme partenaires. Il ne faut pas jamais, général Charles de Gaulle, il a dit, les militaires, il ne faut pas laisser les militaires décider d'aller pour la guerre. C'est nous qui décidons d'aller à la guerre, mais où ils font la guerre. D'accord.
Voilà, et c'est un militaire qui parlait à l'époque. Hein. Oui. Donc là, on va écouter quelqu'un qui n'est pas militaire, qui a écrit, donc c'est toi, hein, Nasser. et je vais essayer de le traduire humblement avec ta proposition de traduction que je vais respecter, si D'accord. tu le veux bien. Je te laisse t'exprimer.
Bah, c'est un résumé, mais j'aimerais bien le lire en arabe.
Bien
Peut-être
sûr.
Quelqu'un va comprendre. Les gens qui nous écoutent, mais je vous remercie Madame Catherine Schneider. Il a fait un petit traduction. Mm-hmm. Ok, le poème, ça s'appelle "Une lettre pour le Soudan" et ça commence comme ça. Résumé en français: mon cher, mon pays, tes propres fils soldats t'ont trahi, ils t'ont froidement assassiné, violé ton honneur, déchiré ta virginité, tes propres fils, ô ma terre, t'ont tué sous les yeux sacrés de tes enfants. On t'a arraché tes vêtements et en pleine lumière, on soué ta chair. Ce sont tes propres fils, mon cher. Ce sont tes propres fils, mon cher. Ton ciel pleut des larmes noires, très noires, et le Nil se couvre de sang des martyrs.
Voilà. Ça, donc, si oui. tu le veux bien, Nasser, tu peux le dire dans la langue que tu veux maintenant, même l'anglais si tu veux, pour l'exprimer à des publics différents, avec D'accord. des nuances qui vont ressentir autrement que ce texte Merci. En français.
Moi, je peux, parce que j'ai l'écrit dans ma langue arabe, avec le rime et tout ça. Alors, ça commence comme ça. « Qataluka amdan » وصلبوك في قارعة الطريق انتهكوا شرفك وعذريتك وانتهشوا لحمك وعظمك بلا خجل وبكل تنكر أبناؤك يا وطني قتلوك هؤلاء العسكر في وضح النهار وأمام أعين أبنائك الشرفاء جردوك من ثيابك ودنسوا جميع الأشياء فمن أين أتيتم أنتم يا هؤلاء سماؤك تمطر دمعا أسودا ونيلك اكتسى بدم الشهداء ماذا سوف تقولون لأجدادكم بعنخ وتهراق ماذا سيكون عذركم فقد انتهكتم هذه الإشراقة أبناؤك العسكر يا وطني سرقوك في وضح النهار فمتى يأتي هذا الفارس الجبار ليأخذ بثأرك وينتقم للأحرار إلى متى نظل في هذا الانهيار ومتى تحين ساعة الانتصار ما زلنا في الانتظار وتحيا وطني مرفوع القامة رغم أنف العسكر ورغم أنف الساسة.
Merci ouais. beaucoup, Nasser. Donc, une petite question à t'écouter, là. J'ai l'impression que le temps que tu utilises dans la langue arabe hein, est supérieur au temps de la traduction en français. Est-ce qu'il y a oui. plus de sens, plus de mots, plus de nuances dans ce que tu as exprimé en arabe ?
Peut-être il y a... c'est pas plus, parce que c'est parce que le poème, toujours quand il écrit dans sa langue originale, ça donne plus d'émotion, plus de sens, plus de... En plus, il y a le rime aussi. On aura peut-être Gassim et Karim pour comprendre ça. Mais de toute façon, c'est la traduction aussi qui essaye de faire comprendre un petit peu... quelque chose.
Bien sûr. Donc peut-être, Karim et Kassim, quand vous entendez dans votre langue, enfin la langue que vous connaissez bien, hein,
D'accord.
Avec ses nuances, ce texte-là, par rapport à ce qui en a été dit en français avant, est-ce que vous ressentez beaucoup plus les choses et les émotions dont parle Nasser ?
Oui, pour moi, même s'il y a relativement un bon niveau de français, mais en arabe, ça rime plus et ça a plus de sens et plus de force. Et pour moi, en fait, traduire un texte littéraire, c'est pas vraiment la même chose pour moi. Même si la traduction est parfaite, en fait, rimer le mot, surtout les fins des lignes, c'est pas les mêmes. Et du coup, ça rime pas trop vraiment. Et du coup, pour moi, je pense que oui, écouter un texte ou un poème dans sa langue originale. Mm-hmm. C'est toujours, ça a toujours plus de sens pour moi.
Bien sûr. Ouais. Alors, ce qu'on peut peut-être faire aussi, enfin, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, c'est tout à l'heure, on a diffusé une chanson hein, que vous avez trouvée intéressante. Ouais. Est-ce que vous connaissez aussi une chanson que vous pourriez chanter ? Et est-ce que ce serait possible maintenant ?
Oui, bien sûr.
Alors, moi, j'ai un peu de son, là, que je peux peut-être diffuser, et puis vous pourriez chanter dessus, c'est ça ?
Oui, c'est une chanson qui s'appelle « L'oiseau et l'enfant oui. » de Mary et Mariam. En fait, on a choisi cette chanson, comment dirais-je, comme preuve de notre apprentissage du français. Et surtout, moi, il y a une histoire avec cette chanson. C'est la première chanson que j'ai appris quand j'avais commencé mon apprentissage du français. Et j'ai arrivé à peine de lire en français. Et du coup, j'ai bien aimé cette chanson. Et du coup, je l'avais proposée aux amis qu'on la chante.
Comme un enfant aux yeux de la mirelle, qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur des vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc de naissant, le sang de poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour donne vie où le vent se lève pour réveiller la vie aux yeux lourds, où les matins effaillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'amour, c'est toi. L'amour, c'est moi. L'oiseau, c'est toi. L'enfant, c'est moi. Moi, je ne suis qu'un fil de l'ombre qui voit briller l'étoile de soir. Toi, mon étoile, qui tisse ma ronde, viens allumer mon soleil noir. Noir la misère, les hommes et la guerre, qui croient tenir les rênes de temps. Pays d'amour n'a pas de frontières pour ceux qui ont un cœur d'enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi.
Bon, merci beaucoup. Donc voilà une très belle chanson hein, qui est donc interprétée alors vraiment en direct. Hein, là, on n'a pas triché, vous l'entendez, chers auditeurs. Hein.
Merci.
Donc voilà une chanson qui a forcément beaucoup de symboles derrière, beaucoup de sens pour vous. Donc ces oiseaux qui passent, ben, vous êtes un peu les oiseaux migrateurs aussi. Hein.
Exactement. C'est pour ça tout à fait. On a choisi.
Voilà. Bah, en tout cas, moi, ce que je peux vous souhaiter là, c'est bon vol. Et puis profiter un petit peu de faire. Profiter aussi de faire connaître votre culture aux personnes que vous rencontrez. C'est toujours un grand moment d'échanger avec vous. Et de partager nous à notre public. Mais j'imagine que vous avez maintenant beaucoup d'amis aussi ici dans la région.
Oui.
Tout à fait.
Donc voilà, l'occasion du partage et de la fête n'est jamais toujours éloignée de l'Afrique. Donc bien j'espère sûr, que vous pourrez transmettre ça aussi et donc profiter des occasions que vous aurez. Et puis, on vous souhaite bonne chance et puis bonne continuation. Merci. Je vois tout de suite les progrès que vous avez faits depuis la première fois qu'on s'était rencontrés, etc. Ouais. Je vous félicite pour ces apprentissages, merci. Mais aussi pour cette réflexion. Parce que le problème qui se pose, je conclue en une minute, hein, c'est que souvent, des gens qui viennent de l'étranger, qui ne maîtrisent pas la langue, on a un préjugé en disant ils n'ont pas forcément une compréhension des choses, une analyse des choses intéressante. Mais avec la langue, une fois qu'elle est maîtrisée, on se rend bien compte que vous pouvez aborder des questions de fond très intéressantes à partager au monde entier.
Exactement.
Merci pour être merci. Venu ici à Radio Campus 106.6 FM.
Merci à vous.
Campusil.com. Et puis, n'hésitez pas, on refera un petit point d'actu si vous le voulez dans un an ou avant, hein, si vous le jugez nécessaire. Plaisir. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Merci.